La musique.
Caravane à la maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour Dawakal.
Vive mon grand galion. Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout, radio, je sais pas quoi.
Non, mais vous tapez Radio Libertaire sur un moteur de recherche et on va trouver assez facilement. Il y a un site média et puis il y a le site de la radio sur le, je crois que c'est sur le site de la Fédération anarchiste.
Ben oui.
On trouve sans difficulté avec n'importe quel moteur de recherche pour n'en citer aucun.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières ou autres formes de création curieuse. C'est Laurent Pascal que vous venez d'entendre et notre invité du jour est Richard Comte, le guitariste Richard Comte. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Richard, bienvenue dans les Oreilles Libres.
Merci.
Alors on a dû entendre déjà ta musique parce que ça fait pas mal de fois qu'on passe un peu des trucs de coax. Mmh. Sans doute que les auditeurs ont déjà entendu le son de ta guitare. Mais là, aujourd'hui, on va pouvoir explorer, découvrir davantage ton travail. On vient d'écouter donc un solo. Peut-être tu peux en dire deux mots.
Oui, c'est ça. C'est un EP qui va sortir entre deux grands albums. Mmh. Donc en fait, c'est une pièce de 16 minutes que j'ai intitulée Travel Pattern, pour dire motif de voyage littéralement. Sur l'idée toujours de la translation, c'est à peu près une musique qui accompagne le déplacement dans l'espace et toute la poésie que ça suscite. C'est se mettre à la fenêtre d'un train et regarder le paysage avec tous ces événements, ce côté linéaire, les jeux de lumière. Voilà, c'est un peu l'idée de ce solo qui finalement est beaucoup plus tourné vers les sons, un peu plus méditatif. En tout cas, vraiment, je deviens un peu plus observateur des résonances que je produis et voilà, j'en profite un peu plus. C'est-à-dire, je me laisse, je gomme un petit peu ma présence vraiment derrière le son, je m'abandonne à ça. Ce qui permet aussi en concert d'en profiter et de mettre plus proche aussi des auditeurs puisque j'en deviens également. Donc c'est vraiment une idée d'expérience qui me plaît beaucoup.
Ça favorise effectivement beaucoup le travail des spectateurs, comme on le dit, ou des auditeurs, c'est-à-dire qu'on a l'espace nous-mêmes pour faire travailler notre imagination, faire travailler notre mémoire aussi, parce que justement là, il n'y a pas proprement parlé de mélodie, mais il y a des sons qui reviennent, donc on peut retrouver, différencier quand même, parce que c'est pas exactement les mêmes résonances, mais donc comparer, apprécier, il y a un travail comme ça de reconstruction de l'auditeur, ou de déambulation à travers les sons.
Exactement, alors tu crois pas si bien dire. Le prochain album qui est déjà enregistré, que je suis en train d'éditer, il s'appellera Memory Territory, Mémoire Territoire, parce que ce sera un titre en français.
Tu fais tout en anglais, j'ai remarqué, ton site internet et ton anglais, etc. Une dimension internationale ou...
Disons que j'ai habité moi-même à l'étranger, travaillé beaucoup aux Pays-Bas, en Allemagne. Uh-huh. Et du coup, c'est pour pas recloisonner quelque chose. J'hésite en fait à travailler sur le prochain, parce que ça me gêne aussi en tant que francophone de proposer qu'un site en anglais. C'est pour pas le recloisonner. Après tout,
Non, c'est très bien. Enfin,
je joue principalement en France depuis des quand même. Ouais. Donc c'est vrai, c'est logique. Mais du coup, j'hésite encore. Tu vois, je l'ai annoncé en anglais. Mais en tout cas, je reprends ce truc-là de la mémoire, puisque dans ce principe dans le principe de répétition et de un peu de dilatation du temps, en tout cas de faire perdre les repères à l'auditeur dans le temps. Et en répétant sur certaines harmoniques et en faisant tourner des sons, il y a une position aussi qui laisse aussi la conscience travailler. Ouais. Et qui j'ai appris ça en rencontrant un psychiatre hypnotiseur qui travaille sur les jeux dans les enjeux d'hypnose, séances d'hypnose. Il travaille aussi sur les mêmes choses, qui remet un peu l'espace-temps en un seul point et voilà, qui peut permettre ça va pas forcément loin, l'introspection, ça dépend de mais en tout cas
un état de conscience quand même un peu particulier quoi.
Voilà, qui est très agréable à partager aussi avec tout le monde. Mmh. Et tu parlais aussi de déambulation, les derniers concerts, j'ai joué dans une gare à Bruxelles et j'ai invité les gens à se déplacer dans l'espace pour pouvoir profiter du son et ça a été finalement Ça a vraiment bien marché, puisque, bon, en même temps, il faisait très froid, mais ça a permis aux gens d'évoluer dans l'espace, et ils ont été extrêmement actifs à se mettre, voilà, quasiment la tête dans l'ampli.
Alors, j'ai bien compris aussi, mais c'est peut-être que je confonds certains trucs, mais tu as un dispositif avec plusieurs amplis, est-ce que c'est dans ce solo-là ou est-ce que
alors,
c'est autre chose?
Finalement, c'était un grand espace, j'ai joué avec juste un seul ampli.
Un seul ampli.
Et
ouais.
Ça suffisait pour remplir l'espace et le travailler, c'était un ampli assez conséquent. Mais ouais. Effectivement, je travaille avec plusieurs amplis pour mettre mettre en son l'espace, quoi. Voilà, en trouvant telle particularité de résonance, en insistant sur des harmoniques ou des particularités des amplis, créer un espèce d'acousmonium rapidement. Ouais. Voilà. Ça permet de travailler sur les timbres et sur le retour des sur le développement du son dans l'espace. Alors ça crée énormément de phases entre les choses, etc. Mais toute cette complexité au niveau de la diffusion me permet de jouer des choses encore plus simples, quoi.
Ouais.
De jouer de l'archer sur une corde pendant plusieurs dizaines de minutes sans que personne s'en lasse vraiment.
C'est super. Ouais. Et donc, ça me fait penser aussi que le titre de ton premier album sono, c'est Inner Map. Donc, ouais. Si je traduis bien, carte intérieure
c'est
ou quelque chose comme ça, c'est ça. Ouais.
C'est ça.
Donc, il y a aussi cette idée-là, un peu toujours dont on vient de parler.
D'espace.
Déjà, comment tu concevais comme ça dès le départ ou...
Ben, ça vient d'un travail avec Olivier Ruellet. Qui nous a quittés malheureusement en 2011, qui était un artiste multimédia, ce qu'on appelait à l'époque. On travaillait déjà en 2008 sur la psychogéographie, en reprenant beaucoup de bords au début, sur ce qui s'est appelé ensuite le mapping, qui n'avait pas encore de nom à l'époque, et sur l'idée de la poésie de la translation en général, de l'espace, de l'architecture, des thèmes assez généralistes, mais il y a quand même cette idée d'espace, de cartographie. Et d'ailleurs, c'est l'illustration de ce disque, c'est une de ses œuvres à lui qui s'appelle Anatomie d'une ville.
La pochette du disque.
La pochette du disque qui est en gros les lignes ferroviaires et les lignes ferroviaires et fluviales des villes, en fait, qui créent une espèce de squelette. C'est très très minimal. Et
anatomie comme un fonctionnement d'un corps, quoi.
Voilà,
qui respire et qui vit. Mais...
Exactement, c'est cet aspect organique de la ville avec ses artères, le poumon, etc.
Ouais, exact.
Et ça rencontre le travail du réalisateur Armel Ostiou, qui est un ami de longue date également, avec qui on a déjà collaboré sur des installations en 2009. Mm-hmm. C'est Olivier Ruellet qui nous a présenté et qui a fait une œuvre en multi-écran sur des détails filmés de la ville de Paris qui sont détachés de l'espace, on reconnaît pas où c'est. Et c'est une installation en quatre écrans qui s'appelle Anatomie d'une ville aussi.
D'accord.
Sur laquelle on va travailler pour l'idée de mémoire territoire. Ça a donné c'était le repérage d'un long métrage absolument magnifique qui s'appelle Rive, qui vient de sortir en DVD, qui est un film sans parole d'une heure et demie avec comme principal personnage la ville de Paris. Et toute cette poésie de détails, ces trois personnages qui arrivent d'horizons différents et qui vivent dans la ville, on a quand même un rapport humain avec ça, mais voilà, toutes ces sensations d'espace, de son.
Tu peux redire le nom du réalisateur.
Donc c'est Rive d'Armel Ostiou.
Rive d'Armel Ostiou.
Bocalupo Production. Voilà.
D'accord. Et comment on en arrive à toutes ces expérimentations là sur l'espace, la mémoire, etc. Est-ce que tu peux retracer peut-être ton parcours? On a coutume de faire dans l'émission, voir un peu.
Ouais.
C'est toujours intéressant de savoir comment on en arrive là, quoi.
Alors, en quelques mots, c'est beaucoup de nécessités intérieures qu'on conjugue avec des nécessités sociales, etc., éducatives. J'ai eu la chance de rencontrer des gens ouverts sur mon parcours. En fait, j'ai commencé à faire du rock assez tôt.
Ouais. Donc la guitare dès le départ, quoi.
Non, j'ai commencé par le piano classique avant ça, pour être franc.
Ouais.
Donc déjà un rapport à l'académisme. En même temps, une nécessité intérieure qui m'a amené vers cette classe de piano. Et après, tout l'académisme, j'étais vraiment logé à l'ancienne école. Là. Et puis la guitare comme vecteur de libération,
d'ouverture,
d'ouverture, et qui m'a amené tout de suite vers le rock. C'était des grosses claques. Donc c'est en 92-93, ça commence à dater un peu. Et là, je suis tombé sur un prof qui était très ouvert, hein, qui faisait plein de choses, et qui m'a, avec qui je suis toujours en étroit contact aujourd'hui, qui est un ami très proche, qui s'appelle Marc Rampin.
D'accord.
C'était en Limousin. Et ensuite, ça allait assez de manière assez fluide, groupe de métal. J'ai rencontré la fin de la scène indépendante des années 90.
Donc à Paris, du coup?
Non, plutôt
dans Limousin.
Dans Limousin, ça commençait dans Limousin, mais les réseaux étaient très serrés, et puis on a tout de suite pu tourner
dans toute la France.
Quasiment dans toute la France, ouvrir pour des groupes comme Lofofora, comme Massisteria à l'époque, ou comme et puis voilà, rencontrer les mecs de Napalm Death, de Brutal Truth, etc. Des personnages assez incroyables. Et finalement.
T'étais tout jeune, quoi.
J'étais tout jeune, j'avais 17 ans. Alors, ouais. J'ai eu un premier groupe qui s'appelait Discord, et ensuite, après, avec un groupe qui s'appelait Unsafe, on a joué beaucoup. Et c'est aussi ces gars-là qui m'ont permis d'être ouvert, encore une fois. Je me souviens d'une discussion avec Phil, le bassiste de Lofofora, ou Farid, le guitariste, qui m'ont dit, mais. Voilà, moi j'écoute ça et ça, regarde, effectivement, c'est eux qui m'ont fait découvrir Miles Davis, c'est ce qui est assez hallucinant, et qui m'ont fait aussi quitter cette scène-là, parce que c'était pas super ouvert non plus, là, dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Et pour faire conjuguer ça avec mes études, j'ai pris un parti assez extrême de rentrer aussi au conservatoire. Donc j'ai continué.
Du coup plutôt en classique, en guitare classique.
Complètement en guitare classique. Ouais. Changer de choses par aussi nécessité d'ouverture. J'étais dans une classe aussi au lycée qui parlait de classe musique au lycée qui a permis de Monsieur François Dupoux là qui m'a ouvert la tête en commençant par Machaut et en finissant par Webern et Messiaen ça m'a bien ouvert et je suis tombé finalement. Sur des profs d'analyse de culture musicale, d'harmonie, de contrepoint et de composition qui m'ont vraiment ouvert l'esprit.
Et toi, tu étais peut-être aussi plus disponible avec un parcours derrière pour apprécier ou relativiser ou...
Voilà, et alors il m'a fallu quelques outils pour relativiser. Ouais, tout ce truc-là de l'académisme hyper lourd en guitare classique n'est pas l'instrument malheureusement le plus ouvert. Heureusement, la nouvelle génération, Rémi Joussel, Étienne Condella... et j'en oublie énormément, je devrais dire Jérémy Perret aussi, ou même Gianni Caseroso qui lui fait les deux, ils ouvrent à nouveau, ils donnent de l'air là-dedans, dans cette scène-là, mais c'était vraiment difficile, on était dans un truc académique pas évident, et ma pratique musicale, quasiment professionnelle, parce qu'on jouait beaucoup, avant ça,
parce que tu faisais en parallèle les études au conservatoire classique et un groupe de rock.
Alors le groupe de rock, il s'est terminé avant.
Avant.
Parce que c'était un peu difficile à conjuguer. Et pour rattacher les wagons, ça a pris quelques temps.
Ah oui.
J'ai retrouvé finalement dans la même dynamique quand même le fait de jouer de la musique de chambre, d'aller chercher des compositeurs avec le quatuor Mantra qui était un quatuor de guitare à l'époque, de monter un trio avec Étienne Candela et Jean-Pierre Raya autour de d'idées de musique ouverte. Alors c'était pas encore de l'improvisation ou alors très peu, mais il y avait des pièces de répertoire, de mettre des choses.
En tout cas, c'est des esthétiques plus contemporaines,
voilà,
une petite idée de recherche
et on retrouve ça et voilà, on fait le lien. Et ensuite le jazz et la classe de Serge Lazarevitch qui m'a lavé de tout académisme et puis en me disant voilà, là je lui dois énormément et je le salue d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a dit vas-y fais ce que tu veux, t'es libre. Ah bon, mais c'est quoi être libre? On travaille ça dans tous les tons et puis dans toutes les métriques et puis après on verra. Enfin, vas-y, fais ça. Et puis je suis content, on s'est retrouvé sur la production de son dernier disque en trio avec Ton Verbruggen et Nictis pour le label Igloo. J'étais super content de faire ça avec lui et puis c'est quelqu'un avec qui je suis encore très proche aujourd'hui. Voilà.
Et donc après tout ça, voilà, se nourrit, se combine et.
Voilà, c'est un premier projet qui s'appelait Azad dans les années 2000, c'est vu le jour en 2004, 2003-2004. C'était encore en Limousin à l'époque. On a évolué jusqu'ici. Et puis l'arrivée à Paris en 2006, et puis la rencontre avec toute la scène, c'était via le conservatoire, tout le CNSM auquel j'ai, je crois, a posteriori bien fait de ne pas rentrer directement. Mais c'est quand même là que j'ai rencontré Julien Ponviane, Yann Joussin, et des gens avec qui je... Antoine Viard, des gens avec qui je travaille de très près encore aujourd'hui, qui sont des amis proches et toujours mes collaborateurs. Voilà. Au fond. Qui a tout ce beau monde-là qui a fondé des collectifs dans Coax, 11h11.
Voilà, on a l'occasion effectivement d'en entendre parler dans cette émission. Tu parlais de Macho tout à l'heure.
Oui.
Macho, c'est un compositeur. Mais c'est aussi un groupe.
Oui, un quatuor de saxophone.
Un quatuor de saxophone dans lequel on retrouve Quentin Billardeau avec lequel tu joues.
Oui, alors là, c'est la génération du dessous. Ils sont venus me frapper.
Ah bon ? C'est pas cool ça.
Ils sont venus me frapper dans l'énergie, quoi. Où finalement, entre deux disques ou après une tournée en Russie, je tirais un peu la langue. Et puis ils sont arrivés avec leurs 10 ans de moins et leur énergie et leur ouverture. Si nous, on a encore. Dans mon parcours, j'ai l'impression qu'il y a encore ça qui est très fort, c'est de taper contre les barrières, aussi bien dans le rock and roll que dans le classique, etc. C'est seulement après que j'ai rencontré des gens qui les ont littéralement défoncés.
Les barrières,
ouais. Voilà. Et en fait, eux, ils arrivent avec 10 ans de moins parce que ça a été fait. Du coup, ils n'ont plus besoin de rien défoncer. Ils sont dans un truc de papillonnage, de reconstruction, d'énergie folle, de jubilation de ça. Et ça a fait énormément de bien et ça a donné Roue Libre.
Un
trio avec Théo Lano et Quentin Billardeau. Théo Lano à la batterie, Billardeau, Quentin au saxophone et au clavier, à la basse préparée. Ah oui. Il a une posture très cajun là-dedans.
Et Richard Comte à la guitare. On va en écouter un extrait puis comme ça on en reparle juste après.
Ça marche.
Thank you.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire avec Richard Comte. Et donc, on vient d'entendre le trio Roue Libre, Théo Lano à la batterie. C'est un copain de Marciac, si j'ai bien compris ça.
Alors, un copain, je ne l'ai pas. Oui, je l'ai pas. Enfin, c'est Benjamin Doustessier qui nous a fait nous rencontrer il y a une dizaine d'années. Et puis après, lui, il est parti travailler avec Serge Lazarevitch. Et c'est en Belgique qu'on s'est retrouvés. Quand lui, il est arrivé en Belgique, moi, j'étais sur la fin de mon séjour là-bas.
À Bruxelles, ouais.
À Bruxelles. Et je me suis dit, tiens, moi, j'ai beaucoup entendu jouer comme Paul Motion, avec ce truc un peu comme Elie Duris, d'avoir tout le jazz dans la main. Sous la main, et puis il se trouve qu'il a fait beaucoup de punk avec son frère quand il était petit, à partir de 8 ans, et il jouait dans le groupe de punk de son frère. Uh-huh. Et du coup, il a cette culture-là qu'il a pris au même moment que moi, malgré nos 10 ans de différence. Uh-huh. Et on a beaucoup de choses en commun, et c'est quelqu'un qui a une position très esthète, c'est un vrai rocker, j'oserais dire, qui est très ouvert, et puis en même temps très esthète, très exigeant dans ses goûts musicaux. Voilà, Théo Lano est une très belle personne et un chouette musicien.
Voilà, donc avec Quentin Biardot, saxophone, keyboard, etc.
Également.
Et basse. Et puis donc Richard Comte, notre invité à la guitare, c'était Roue Libre.
Voilà, dans les extraits qu'on a entendus, je joue de la basse électrique en fait. Mm-hmm. Comme je joue de la guitare baryton, donc c'est souvent pas très loin. Et puis j'aime bien aussi jouer de la basse dans ce groupe.
Guitare baryton, c'est-à-dire quoi? Il y a une corde de si encore en dessous?
Alors c'est une corde, j'accorde comme un violoncelle en fait, les quatre premières cordes comme un violoncelle, et puis j'ai les deux aigus qui varient d'accordage. Okay. Et puis là, la basse électrique, ça donne quand même, ça crée un espace quoi, ça laisse beaucoup d'espace au clavier, au saxophone de Quentin. Et dans ce groupe-là aussi, on l'entend pas sur ces mm-hmm. sur ces tracks-là, mais je chante, je crie, je joue des textures de voix. Et je retrouve un petit peu la position qui était la mienne au début de ma musique quoi. Uh-huh. Finalement, un truc où je chante dans la guitare, je chante pour faire des textures et aussi pour dire des choses qui sont improvisées.
Et qui sont intelligibles. Enfin,
et qui sont intelligibles des fois, ouais. Et qui sont intelligibles des fois, c'est un peu même gênant. C'est des choses qui sortent, qui sont parfois assez profondes, c'est même un peu gênant. Elles sont plus ou moins intelligibles parce que j'hésite pas à crier, à me cacher derrière un micro d'harmonica. Ouais. Mais voilà, c'est bien. Ça sonne vraiment comme du rock et ça en est. Ouais. En même temps, je tiens à dire que dans la démarche Roue Libre, c'est tout est improvisé. C'est improvisé, on se fait un vocabulaire, mais ça reste cet exercice de liberté qui est là, qui vient aussi beaucoup de la position de Quentin Biardot dans Durios Libertinus, de se livrer à l'espace comme ça, d'aller comme une espèce de kamikaze par rapport à toutes les préparations des concertistes, etc. À prendre n'importe quoi, aller faire de la musique avec ça, jouer avec l'espace. Espèce de pied de nez, cette position qui m'a beaucoup plu. Mm-hmm. Finalement, qu'on a même travaillé ensemble pour arriver à quelque chose. Quoi. Et on arrive à faire oublier finalement que c'est improvisé, c'est plutôt une réussite. Quoi. C'est pour ça que je le redis.
Et là, il y a un travail de montage aussi, parce qu'on a entendu les deux parties. Est-ce que ça a été joué comme ça?
Alors, ça a été. On a créé. Enfin, finalement, on arrive. Ça a été le cas dans tous mes projets. Surtout ces dix dernières années, c'est que je produis tous mes enregistrements, je mixe quasiment tous mes enregistrements, et ce travail d'enregistrement, de parties improvisées et d'édite ensemble avec le groupe, ça permet de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on peut garder et déjà qu'est-ce qu'on garde ou qu'on garde pas. Ça veut dire créer un vocabulaire, en plus le mettre en forme ensemble au niveau des durées, etc. Et de placer tous les sons ensemble. Si on voit qu'il y a besoin de doubler 4 fois un saxophone ou un clavier, je ne sais pas, pour qu'il y ait de l'épaisseur, une fois qu'on l'entend comme ça, c'est facile en concert de doubler 4 fois avec un delay, etc. Et ça change vraiment le son du groupe. Ouais. Donc on peut dire que y a ce travail d'édition, il sert le vocabulaire. On a fini de mixer ce disque-là en novembre. On a enchaîné avec un excellent concert organisé par les copains d'En Veux-Tu En V'là au Cirque Électrique. Mmh. Et on a finalement joué, alors pas du tout la même chose, mais quelque chose de qualité équivalente.
Ouais, et puis que vous auriez sans doute pas joué non plus si vous aviez pas fait le...
Très certainement. Et du coup, c'est comme ça que l'histoire des groupes évolue. Et puis Dictate, ça a commencé par, qu'on entendra certainement tout à l'heure, ça a commencé par commencer à chercher du grave dans tel et tel élément, aller chercher... la lenteur, de un côté massif, etc. Et on est passé du sax alto au début à un sax baryton amplifié dans un ampeg énorme avec un octaveur. Donc c'est aussi tout ça. Voilà. Ouais. Je pourrais vous faire écouter. On jouait des trucs à la Tim Burne, dans le trio de Tim Burne avec Ducré et Tom Rainé. La même chose en évidemment moins bien et en très gauche et c'est assez étonnant. C'était
au tout début,
les premières sessions. On a joué beaucoup de musique écrite avant de se rendre compte à l'évidence de ce plaisir du son ensemble, hyper simple, hyper basique, hyper brut. Et de bien vouloir s'abandonner à ça, ce qu'on fait de plus en plus, puisque les matériaux sont de plus en plus simples. En gros, on joue...
Ouais, alors, on va peut-être l'écouter, du coup.
On va peut-être l'écouter.
Mais juste, je voulais revenir sur ton travail de production, parce qu'il fait vraiment partie de ton travail de musicien. Ça, c'est singulier. Tous les musiciens n'ont pas cette activité-là intégrée comme toi, tu le fais. On a l'impression que ça fait vraiment... Une part importante de ton travail musical, la production.
C'est vrai, c'est une manière pour moi de remettre l'expérience, de maîtriser l'expérience jusqu'au bout de l'auditeur, de pouvoir mettre les gens dans le son comme je l'entends, jusqu'au travail de mastering qui me fait garantir qu'ils écoutent sur un iPhone, dans une voiture, ou qu'ils auront quand même le son comme je le pense, et pour pouvoir le partager jusqu'au bout. Ouais. C'est pour ça que je suis venu avec un extrait de Roots of the Moment, de Pauline Oliveros, parce qu'elle fait ça aussi, elle, déjà dans les années 70, elle travaille avec son micro, avec la pièce, très très peu d'effets, et elle fait sonner son accordéon comme un orchestre, en fait. On arrive à ce truc-là orchestral, sans forcément faire des re-recordings, en mettre plein de pistes, etc. C'est l'idée de... Alors voilà, il y a cet avantage dans le son et la vie des groupes, et après c'est vraiment une liberté que j'ai développé par nécessité intérieure. Sur ce chemin-là, j'ai rencontré au début des années 2000 Mathieu Metzger, qui lui était déjà à fond là-dedans. Moi je viens de Limoges, lui de Poitiers, donc on s'est rencontrés pour jouer des trucs musique de big band ensemble à l'époque. Et voilà, son indépendance m'a frappé, et puis sa liberté de prendre ça, de jouer. Ouais.
Pour du coup, c'est une liberté économique, c'est-à-dire que t'es pas dépendant.
Alors c'était
pratique, enfin.
C'est ça, pratique. Et puis en même temps, qui c'est qui aurait enregistré, produit. Lui, il jouait, je me souviens, Countdown avec un son de Coltrane, avec un son de métal et 10 saxophones. Bon, qui c'est qui, à part lui-même, qui aurait pu pousser à ça.
Mais en même temps, c'est regrettable. On aurait pu attendre que ça.
D'ailleurs, il est disponible cet album en solo qu'il a fait à l'époque. Il est vraiment encore magnifique.
Ouais,
moi c'était économique, c'était aussi la fin. Moi j'ai connu l'analogique dans mes premiers disques, et puis 7-8 ans de balbutiement des outils numériques, entre le DAT et l'ordinateur, c'était très compliqué. Et là on arrive avec des versions de Cubase et puis des préamplis qui sont pas trop mauvais, et on arrive à retrouver de l'autonomie aussi là-dedans. Et c'était aussi passionnant de vivre ça, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Donc à l'époque, je le faisais pour de la musique, c'était des projets de musique classique, contemporaine, et donc c'était quand même plus facile. Et puis le premier album en studio réalisé, c'était en 2006 avec Azad, Next Door. Et depuis, ça a été aussi un peu d'investissement personnel. Et puis toujours cette quête d'autonomie. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis content d'arriver dans tel et tel studio, mais je suis surtout content d'être indépendant et de pouvoir enregistrer telle pièce et restituer l'espace comme je l'entends, travailler sur ce... et d'avoir... pouvoir enregistrer beaucoup d'albums à PAF, Performing Art Forum, qui est un ancien couvent... dans le nord de la France, dans l'espace de résidence, avec des espaces extrêmement grands mis à disposition, avec du bois, de la pierre, du carrelage, du béton, il y avait même jusqu'une chapelle. J'ai enregistré pas mal de disques là-bas, et c'était vraiment l'espace de voilà, j'ai pas de studio, et puis c'est pas grave en fait.
Ce qui est surtout super intéressant, c'est que t'es guitariste, mais t'es aussi faiseur de disques, c'est-à-dire que c'est quelque part, c'est l'instrument, c'est aussi
c'est
la chaîne de fabrication du disque.
Et
on aura tort de croire que, parce qu'il y a une illusion un peu de réalisme et qu'avec la stéréo on est comme dans un concert, mais non, en fait c'est une diffusion, et donc ça, le travail de musicien, il peut aussi se penser à cet endroit là, c'est ce que tu fais toi.
C'est un endroit où je suis bien, même pour faire de la post-production, c'est-à-dire toujours travailler sur du matériel improvisé, mais rajouter des choses, travailler des épaisseurs, l'orchestration. En fait, je suis allé voir un prof d'orchestration en sortant de la classe d'Éric Durand, qui m'a dit, bon ben voilà, tu fais ça aujourd'hui, tu travailles avec Pro Tools, je vais pas t'apprendre à faire sonner un hautbois, en fait ça va pas te servir, donc on va finir ce café et puis tu vas rentrer chez toi travailler ton truc. C'était super beau d'entendre ça, j'avais 25 ans, j'ai dit, ah oui d'accord, j'ai pas bien compris, puis je remercie aujourd'hui s'il se reconnaît de m'avoir guidé vers ça, parce que c'est effectivement voilà, c'est aussi un travail sur lequel j'ai pu prendre confiance grâce à des gens comme Ton Verbruggen de Rat Records qui m'a confié des beaux enregistrements, ou à Stéphane Furic-Lebovici qui m'a confié des enregistrements déjà en 2007 avec Likonitz, Chris Speed. Wow. Voilà, il arrive avec ça, c'est quelqu'un qu'on rencontre comme ça, et tiens, qu'est-ce qu'on pourrait pas faire ensemble. Et du coup, de rencontrer aussi des mecs comme Jim Black à l'époque que j'admirais, de mixer, d'éditer la musique de Trevor Dunn, de Ducret ou de Nate Woolley. C'était vraiment une chance, et ça a développé vraiment une confiance là-dedans. Voilà, que je porte aujourd'hui. Et aussi, j'ai décidé de concentrer tout ça dans un espace et d'en faire un label qui va voir le jour à l'automne 2017, qui s'appelle Nunk. Et l'idée de ce label est simplement la musique libre.
Donc ça va accueillir peut-être les enregistrements qu'on a entendus.
Voilà, qu'on est en train d'écouter, à peu près tous, qui sont tous en collaboration avec d'autres labels. C'est aussi pour moi l'occasion, avec des labels avec qui je travaillais, comme Coax Records, le Tri Collectif, ou... C'est certainement Rat Records, Bicoque Records, ça va se faire dans le temps. Mais pour relier tout ça dans un même espace, relier des choses de musique classique contemporaine, de musique de chambre improvisée, de noise, de free punk, je sais pas quoi, ça peut être tout, ou même de folk. Là, j'ai revu un ami qui m'a fait écouter quelque chose d'extraordinaire, et même si c'est écrit, même si c'est une chanson de 2 minutes, c'est une expression. C'est un ami qui s'appelle Fabien Bréard, le projet s'appelle I Am A Band, et il joue c'est l'expression de sa liberté de faire des chansons de folk de 2 minutes. Et on sent un travail de temps passé à ça, d'amour partagé, et finalement il nous resserre les mêmes accords qu'on a entendu depuis les Beatles 100 millions de fois, en faisant une musique très personnelle et en faisant aucune référence à ça. Je trouve ça magnifique, ça m'emballe, et j'ai envie de pouvoir le sortir aussi comme ça, travailler là-dessus, alors surtout de manière numérique, pour avoir cette liberté de diffusion, mais aussi voilà, on aime aussi les objets, donc il y aura des objets, particulièrement le prochain disque de Vegan Dallas.
Ouais.
Qui est un groupe où j'ai pu rencontrer Simon Enoch, Benjamin Flamand et un comparse de longue date, Julien Chamla, et où on s'est mis d'accord sur le fait de faire une musique qui nous ressemble à tous, collective, et puis ce qu'on entendait de contemporaine et ouverte.
On va en écouter peut-être un petit extrait.
Ce sera le plus simple.
Voilà. Vegan Dallas, Dou Vaudou, Richard Comte, Benjamin Flamand, Julien Chamla, Simon Enoch. Et d'ailleurs, il y a un gars qui fait du je sais pas quoi, un ingé son, et on en parlera après. Mais
alors oui, Adrienne Bourget, qui fait la mise en son.
Il y a mise en son, et puis il y a des rétroprojecteurs, je sais pas quoi.
Alors ça c'est encore autre chose. C'est Julie Lardreau qui fait la projection d'objets animés en visuel.
Ouais. Bon, on en discute après. On l'écoute d'abord. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission Les Oreilles Libres avec Laurent Pascal et notre invité Richard Comte.
Richard Comte, donc, dont on vient d'entendre la participation au Quatuor, comment on dit,
oui,
quartet, Egan Dallas, Dou Voodoo, donc on répète les musiciens, Benjamin Flamand en vibraphone, Julien Chamla batterie, Simon Enoch guitare, électronique.
Alors oui, plutôt électronique, dispositif, électroacoustique, voilà, guitare, on aurait pu bien jouer à deux guitares, mais il a développé un instrument dont il sert aujourd'hui, je crois, ne pas me tromper, dans son projet solo qui s'appelle We Use Cookies.
Ah oui.
Benjamin Flamand a développé, c'est plus du vibraphone qu'il joue, mais une installation avec des bols de cuisine, des métaux, etc., qu'il a tout, auquel il y a des micro-contacts qui passent dans une table avec des effets, etc. Et Julien Chamla avait développé avant, mais dans ce groupe-là, il joue sa batterie surmontée d'une harpe basse,
oui,
avec les douze demi-tons d'une octave grave, qui lui-même joue dans un ampli basse, etc. Donc c'est un dispositif...
C'est un sacré bordel quand même. Hein.
Comme disait Jean-Brice Godet, c'était un plan d'éménagement, un sacré bordel.
Un
camion plus une voiture, un monospace blindé,
hein.
Voilà. C'était... mais bon, voilà, ça faisait partie du truc. C'était quelque chose de très compliqué dans les instruments et en même temps dans l'architecture, même si là, c'est un des morceaux les plus simples où il y a quelque chose d'assez naturel. Il y a quand même toujours une idée d'architecture complexe, de choses très construites, de choses improvisées par-dessus, des choses écrites, des patterns. Et voilà, ça crée une musique aux confins de bien des choses qui est difficile de nommer. Voilà, on va sortir le disque Electro Griot, on y travaille activement en ce moment. Donc en même temps que le lancement du label, certainement début novembre.
Donc ça, c'est un extrait du futur disque.
Du futur disque Electro Griot là, qui voilà. Donc et pareil pour Roue Libre, on va voir comment ça se passe exactement dans le calendrier, si ça sort tout en même temps, etc. ou pas. C'est des choses qu'on doit encore discuter, sur lesquelles on doit travailler, mais voilà, j'ai le plaisir de pouvoir regrouper tout ça sous une ligne éditoriale qui est aussi elle-même rêvée autour de la musique libre, de la liberté de chacun de se retrouver là-dedans, et puis j'espère la liberté des auditeurs pour partager tout ça, quoi. Enfin voilà, pour l'écouter.
Simon Enoch et Julien Chamla, on les recevra, un de ces quatre, c'est en cours de négociation, mais ça va, faut qu'on cale un
date, bah oui, bien sûr, et puis leur album Elved Room,
oui, c'est un duo formidable, ça,
voilà, c'est un super duo qui est donc j'ai eu le plaisir de poser le logo de Nunk sur leur disque, qui est sorti l'année dpremière, donc c'était vraiment en avant première, mais c'était juste par un échange de soutien de leur part, et puis de petits coups de pouce dans les deux sens, et puis donc il sera aussi dans cette ligne éditoriale pour ramener un petit côté brut et sombre à l'affaire. Voilà, avec plaisir.
Alors, Julien Chamla, donc c'est un musicien avec lequel tu joues aussi dans Hippie Dictate avec,
oui,
Antoine Viard.
Exactement.
Voilà, on a parlé un petit peu de ce groupe, mais peut-être qu'on peut y revenir. Éventuellement, on en écoute un extrait tout de suite.
Allons-y. Alors c'est un extrait, c'est plus qu'une avant-première là. On a enregistré ça
hier.
Alors quasiment. Ben, c'est il y a la semaine dernière, en résidence aux Instants Chavirés, on a travaillé avec Benjamin Pagier.
Ouais.
Qui serait notre metteur en son pour le coup, et on a enregistré ça dans les Instants Chavirés vides avec cette résonance. Il y a un micro par-ci par-là, mais voilà, je voulais vous faire partager ça parce que c'est notre nouveau répertoire. On a travaillé 5 semaines de résidence en Normandie, isolée du monde, pour se mettre d'accord à jouer un do plus un do. En gros, la même chose tout
Bravo,
du long.
Les gars.
Voilà, c'est ça. C'était beaucoup de réflexions quand même pour arriver là. Je sais
Moi,
pas comment.
On est sûr de ce que vous faites.
Ouais. On est sûr de ce qu'on fait. Mais alors, justement, non, parce que là, on arrive à un point qui est un peu comme qui rejoint ce dont on parlait pour le solo au début. C'est que finalement, le do de son ampli, le do de mon ampli, l'un et l'autre séparément écoutés, ça a aucun intérêt. Mais par contre, ce qui se passe au milieu quand on enregistre avec des micros d'ambiance, au milieu entre nous, au fond de la salle ou à des coins, c'est des mélanges de ces deux sons-là, parce que c'est pas tout à fait les mêmes dos, à savoir ils sont pas très forcément justes, et on joue sur ça.
Puis même ils sont timbrés, quoi.
Ils sont timbrés, et les batteries. Alors même si on joue quasiment avec le même son maintenant, grâce aux pédales, etc., on arrive à créer une musique, une espèce de vortex de sons où les sons tournent, se mélangent, ils sont jamais les mêmes. Et finalement, c'est parti de jouer des choses très simples et très brute, ça crée quelque chose qui, voilà, qui va venir faire part de la notion du temps, masser les gens. Et là, pour le coup, au massage, avec le volume sonore et les basses qu'on envoie, ça part du ventre, quoi, les basses dans le ventre, et puis un peu tout. Voilà, on se cantonne à
Mais là, le travail d'édition, il est indispensable, parce que pour recréer ça justement en stéréo alors que ça a été pris comme si comme
voilà,
ça.
Voilà, là on a été
dans tout l'espace.
On a été obligé, ce qu'on a fait pour la première fois pour que ça mélange bien, de rajouter un peu de reverb pour que ça tourne un peu mieux. Ouais. Voilà, on a tout un truc de production. Voilà, c'est vraiment une répète qu'on fait écouter là, mais on est content de la partager.
Je suis très curieux d'entendre ça. Eh bien, c'était Hippie Diktat, qui mérite bien son nom quand même. Il y a voilà. un côté assez psychédélique là dans ce qu'on vient d'entendre.
Ouais, ça vient. Mais c'est un
Hippie Diktat. Hein, voilà, il y a un côté Diktat côté... aussi, peut-être, je sais pas.
Bah le côté, oui, un peu son implacable. Après, il y a le où on laisse pas trop le choix. Après, il y a ce côté psychédélique. C'est venu par l'idée des sons qui tournent, des sources, du spectre et de tout ce qui est doom, sludge. Je dirais pas que on n'a pas vraiment été influencé directement par Sun Ho ou le travail de O'Malley, mais c'est des choses qui sont dans l'air du temps, des choses qu'on partage. Et
donc avec Antoine Viard, saxophone baryton.
Voilà, qui fait un solo qui s'appelle Tumulus, où il prend ses racines vraiment dans la musique d'Hippie Diktat directement.
Donc venez, j'en profite pour faire de la pub.
Ah oui.
Venez le 31 janvier, mardi prochain, s'il vous plaît. Oui, c'est pour vous, mais vous n'allez pas le regretter, quoi. C'est à la soirée Coax. Main d'œuvre, 20h30, il y aura Tumulus, puisque ça me fait m'en souvenir. Il y aura, je crois que Tumulus ouvre la soirée. Après, Chip Tarpo, c'est le duo que j'ai le plaisir de faire avec
Jean-Luc
Guillonnet, mais c'est très blues, voilà. Ça va surprendre, je pense, pas mal de gens. Et on termine avec Novembre.
Génial.
Antonin Triangle à la bande. Donc, comme ça, c'est dit. Mais on peut revenir donc sur Antoine Viard.
Oui.
Qui joue donc Tumulus, son solo, c'est cette énergie-là aussi ou...
C'est cette énergie, puis ce truc-là où il venait d'avoir ses pédales. On était au LCL, au Centre Culturel Libertaire, ça ne s'invente pas à Lille. Et
à Lille,
après,
ouais.
les balances, on venait de jouer au festival Incubate Festival aux Pays-Bas la veille, et puis on le laisse après les balances tout seul en bas. Il venait de voir ses pédales qui mettaient encore 25 minutes à brancher. Et puis, une espèce de gros truc de son hyper, hyper vénère. On écoute ça de l'extérieur et on dit, mais ouais, c'est super, c'est super. Et finalement, il a mis quelques mois à faire cette gestation et à en faire son solo. Tumulus, c'est drôle parce que lui, c'est un bourguignon, un français, super français, méga français, de souche, tellement bien qu'il ressemble à Vercingétorix quand on le regarde. Vous y penserez la prochaine fois que vous le verrez. Qui est né.
On l'a invité déjà, mais c'est vrai qu'on les voit pas trop à la radio.
Mais qui est né quand même à 20 km d'Alésia et qui fait un solo qui s'appelle Tumulus. Tumulus, c'est la tombe des chefs, gaulois et qui est un hommage aux ancêtres, à la terre, au passé. Et voilà. Et c'est tellement sincère que ça en devient beau et en même temps physique, et voilà, j'en fais la promotion, il me donne de l'argent, c'est pour ça.
Donc venez tous mardi soir, vous ne le regretterez pas. Et donc c'était Hippie Diktat. On peut peut-être encore raconter cette tournée épique que vous avez fait.
On a fait quelques-unes.
Ah oui, alors laquelle, voilà, c'est ça. Et il y en aura d'autres.
J'espère, oui, mais on en fait une. On se cantonne au territoire français, finalement, qu'on a toujours plaisir de faire, entre mélanger des festivals, des lieux alternatifs, des lieux qu'on connaît pas, des lieux qu'on connaît. Mais on a forgé la musique, ce qu'on disait tout à l'heure entre deux morceaux hors antenne, sur la route, quoi. En 2012, on est parti, on avait cette idée de l'improvisation, et puis le son et la composition de la musique se faisait sur la route, quoi. C'était des collectifs où on est parti avec des choses assez abstraites et finalement on est revenu avec un répertoire. Comment trouver, voilà, c'est vraiment une idée de musique collective, et comment trouver les choses, les choses dans le son, comment trouver son identité, comment se placer, et ça se fait de manière assez flexible, et c'est vraiment beau. Donc on a fait ça, cette tournée Pologne, République Tchèque, d'une vingtaine de dates, et une autre tournée, vraiment tournée hippique, là,
hippique,
autour de la mer Baltique, en passant par la Russie. Là c'était en 2014, on y a laissé quelques plumes. Mais on est content de l'avoir fait. Donc la prochaine ce sera plutôt vers l'est du sud, en partant dans le nord d'Italie, Slovénie, puis Autriche, voilà, et peut-être un peu des Balkans pour se dépayser vraiment.
Voilà. Bon, on aura tous les détails aussi sur ton site internet, peut-être qu'on peut le trouver facilement. Richard Comte.
Ouais, Richard Comte, vous tapez ça, richardcomte.com. Vous avez tous les détails, et puis. Puis au cas où il en manque, je suis joignable. Il y a mes coordonnées sur le site. Si vous voulez vous plaindre également,
collection. Réclamer, voilà.
Réclamer.
Alors, est-ce qu'on écoute encore un peu de musique, là? Il nous reste 20 minutes.
Ce serait super de peut-être écouter un morceau de Radiant. Qui m'a été conseillé par Théo Jarier,
Radiant,
qui est un vrai disquaire de bonheur, ouais. qui est un groupe justement d'Autrichiens de Vienne, qui sont très fiers d'appartenir à cette scène de viennoise très ouverte, effectivement, et qui font une musique libre au cœur de voilà où le processus de production est au cœur de la musique, où l'édition et la composition se mélangent, où l'orchestration et tout ça se mélange. Et enfin, c'est peu de concerts, je crois, et ils proposent toujours des objets extrêmement intéressants.
C'est ça,
comment c'était à Mulhouse alors?
Ah bah, il y a même quelques semaines aux Instants Chavirés.
Ah, génial, ouais. Génial.
Ouais, c'était fabuleux. Ah, moi, ils jouaient leur dernier album. Et nous, les avions. J'avais été les interviewer à Tours. Et malheureusement, on a perdu l'enregistrement. Ah. On ne peut pas écouter cette émission. Mais j'adore, moi, pour ma part, le batteur Martin Brandelmeier.
Ah oui, c'est assez extraordinaire. On va pouvoir écouter ça. C'est Off Dark Silence.
On Dark Silence Off.
Exact.
Voilà, merci, ma dyslexie a parlé. Merci, Laurent.
Voilà, comme ça, on peut discuter pendant ce temps. C'est-à-dire que Radiant, c'est bien. Et mais c'est voilà, c'est comme ça aussi qu'on crée du désir. Ça, les progrès de la technologie moderne, c'est quelquefois trompeur. Hein. On s'imagine que c'est super et tout, qu'on peut tout faire et n'importe quoi. Mais en fait, pas forcément. Des fois, ça empêche aussi de faire des trucs. Mais en même temps, on est un peu du genre à s'accrocher, à chercher, être tenace, je pense que c'est une de nos qualités. Donc finalement, on va arriver à... Enfin, moi, je suis aussi optimiste à écouter quelque chose.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres qui va bientôt toucher à sa fin. On va encore écouter 2-3 trucs, Laurent.
Bah ouais, ouais, mais c'est sûr que ça passe très très vite. Nous sommes avec Richard Comte et oui. ça enchaîne. Donc ça, c'était Radiant. Super.
Super, oui. Voilà, il y a un truc magnifique dans leur musique. De construction, de voilà encore une fois ce travail d'édition qui est très lié au travail d'orchestration, de composition, et puis voilà la précision dans la réalisation, il y a quelque chose d'extrêmement ouvert et voilà ils sont voilà super. pour l'Autriche. Alors. Après je suis venu avec sous le bras un petit Svin, un groupe de Copenhague,
ouais.
Qu'on a rencontré avec Hippie sur la route.
Ah ouais, je connais pas ça.
Et qui sont venus plusieurs fois en France jouer. On a revu, on faisait nos deux solos avec Jason Von Gulick encore une fois au CCL à Lille, et ils sont venus jouer après. Voilà, ils proposent un rock assez, c'est assez lumineux, mais c'est l'idée de quelque chose de très spectral, de très sonique, on dira plutôt, avec saxophone, guitare synthé, batterie. En live, ça m'a sincèrement retourné la tête. On se retrouve à écouter La Grosse Caisse en solo au bout de 5 minutes. On comprend pas pourquoi ni comment. Et c'est assez fantastique, quoi. Voilà, avec des matériaux très simples. Et voilà, ça envoie, quoi. Des Vikings. Bah
eh bien, écoutons alors un extrait de Svin.
Tu as détesté ça, son... Ah, c'est quelle merde. We'll be right back.
là où elle est. Eh bien, c'est donc les oreilles libres et c'est la dernière ligne droite de l'émission. On a écouté Svin, que nous a apporté très gentiment Richard Comte, notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard.
Merci à vous pour ce moment de musique.
Voilà, nous avoir.
Partage.
Écoutez tout ça. On peut te retrouver peut-être bientôt en vrai. Dans la vie.
On sera en tournée avec Epidictat qui commence le 3 au Carré Bleu à Poitiers en février, qui se termine le 11 à Montreuil au Gib avec Big, c'est-à-dire Big, voilà.
Donc c'est Gallier et Perrault.
Et voilà, et Edouard Perrault et Fred Gallier, les copains qui voilà, on sera en coplateau au Gib à Montreuil. Ouais.
Donc ça, c'est la soirée coax du 11 février prochain. On pourra écouter donc Epidictat.
Il y a la soirée du 31, dont tu as parlé.
Alors j'ai parlé de la soirée du 31.
Il y a la soirée Q.
Alors la soirée Q, hein, culture avec un gros Q, c'est au Petit Bain, ça c'est le 9 février, à ne pas rater.
Des explosions de bonnes choses qui nous aident à vivre l'époque.
Je pense que, ouais.
Voilà, c'est vous armer pour l'élection 2017, c'est d'aller dans ces soirées Q. J'en profite pour faire une bise aux organisateurs et à l'organisatrice, l'instigatrice de tout ça, ouais. Et la remercier pour ce travail d'activisme culturel dont on a vraiment besoin.
Voilà, je ferai une reconstitution personnellement de l'interview de Fabien Rimbaud.
Magnifique.
Ça va être un grand moment, ne manquez pas ça.
On peut saluer également.
On le salue également.
Le grand Fabien Rimbaud. On travaille ensemble dans le groupe, le projet Sauvage Vacances.
Ah oui, avec donc Léa Montex.
Avec la grande et belle de Léa Montex. Ah. Et David Codina qui joue de l'organetto, du piano préparé. On joue dans des tempéraments très différents, ce qui donne un côté assez fou au groupe avec cette idée de texte et ces personnalités. Et on joue le 14 février prochain au Centre Barbara pour une soirée.
Ah oui, bien sûr, souterraine.
Pour la soirée La Souterraine, voilà. Et on a le plaisir de venir vous présenter ça. On était en résidence en octobre, on va tourner. Il y a un vinyle qui va sortir de notre live, que j'ai eu le plaisir également de masteriser. Et le lendemain, on sera à la Générale avec l'ensemble d'Edalus et Home pour jouer la musique de Michael Pissarro, qui est un compositeur américain. Et qui vient en tournée en Europe avec sa musique sous le bras. On est ravis de le rencontrer à ce moment-là. Donc, ce sera avec Julien Ponviane, pour ne citer que lui.
Beaucoup de choses réjouissantes. Tu pars après en tournée avec du théâtre, etc.
Voilà, c'est ça, avec la pièce mise en scène par Pascal Kirsch, Pauvreté, Richesse, Homme et Bête. Ce sera au Théâtre National de Toulouse, puis ensuite Tarbes, je vais en oublier forcément, mais il y aura aussi Rennes.
Tout, j'imagine, sur ton site.
Voilà, il y a tout sur mon site. Il y a une trentaine de dates qui nous amènent jusqu'à, avec un passage en Amérique du Sud pour jouer l'opéra contemporain droit de Pablo Carreño, La Digitale, début mars. Et puis, on va se retrouver avec Epidictat mi-avril pour une tournée de 10 dates entre Paris et Tarbes, voilà. On aura plein d'occasions de se voir.
Bon, ben voilà, c'est très réjouissant. Christophe, est-ce qu'on ajoute
Peut-être simplement dire que la semaine prochaine, on va retourner vers la parole, puisque nous recevons le collectif des toboggans poétiques. Il va être question de poésie.
Voilà. Et alors, pour finir donc l'émission, on va faire du deep listening. Tu connais ça, le deep listening ?
Exactement.
Alors, explique-nous.
C'est de se mettre dans le son, peut-être. Moi, je l'ai interprété comme ça. Tu veux pouvoir...
Peut-être que chacun a sa version du son. Moi c'est aussi bien... Alors, deep listening, donc, c'est le concept développé par Pauline Oliveros, mm-hmm. qu'on va entendre maintenant, qui est disparu en novembre dernier, et qui jouait de l'accordéon et qui composait. Voilà, moi, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Et donc, cette histoire de deep listening, c'est autant une plongée dans le son... que une plongée dans soi-même.
Oui, c'est
pour
ça
que je pense que c'est pas un hasard si t'as choisi ce morceau-là par rapport, par exemple, au celui qu'on a entendu tout au début.
Voilà, c'était pour faire écho. Exactement, cette idée de résonance, cette idée aussi de maîtriser le son parce qu'elle était productrice elle-même et elle s'enregistrait elle-même de ses enregistrements. Et j'en profite au passage pour remercier Julien Ponviane. On était en tournée, on s'est fait une tournée française en prenant uniquement des petites routes. Au début de l'automne, en octobre dernier, c'était un plaisir d'écouter cette musique. Il est arrivé avec ce disque-là.
Sur les départementales.
Sur les départementales, avec les gelées, les saveurs d'automne, et puis ces lumières et tout, ça a accompagné tout ça. Donc j'ai pas pu vous passer la musique qu'on joue en duo avec Julien. puisque c'était vraiment là pour le coup. Ça faisait un peu trop de travail d'édition, puisque c'est en plus une musique très longue qui s'édite pas.
Tu reviendras, Richard, t'inquiète pas.
Voilà. En tout cas, merci pour tout ça et merci à lui. Et puis voilà, elle est disparue quelques semaines après avoir fait quelques magnifiques concerts, notamment aux Pays-Bas, qui ont laissé les gens profondément ravis et marqués. Mmh. Et donc voilà, on va pouvoir partager ça. Donc c'est The Roots of the Moment de Pauline Oliveros.
The Roots of the Instant Pauline Oliveros. Okay. Salut, à la semaine prochaine.
Ciao.
Thank you.